Le moment est venu de parler de business, d'affaires sérieuses à part de ça, parce qu'il y a des affaires assez sérieuses qui se passent dans l'entourage des Alouettes de Montréal et du Canadien de Montréal. On va aussi parler de Nike, de la NBA qui s'en va jouer un match à Paris, de la Coupe ATP, plusieurs sujets dont celui des minorités à des postes d'entraîneurs dans la NFL. Et pour nous les livrer, ces sujets-là, ben nul autre que notre ami Ray Lalonde. Bonsoir Ray.
Bonsoir Mario.
Première conversation en 2020, je t'en souhaite une bonne, il est peut-être un petit peu tard, mais on se le permet, c'est le 10 janvier seulement.
On a jusqu'à la fin du mois à peu près.
On a jusqu'à la fin du mois, on va avoir des bons sujets en masse et l'année s'est amorcée par la conclusion de la vente des Alouettes de Montréal. Plusieurs ont été surpris de l'identité des nouveaux acheteurs, Monsieur Spiegel et M. Stern, mais au stade où on en est rendu, là, on attend la nomination d'un président. Tout indique que ça pourrait être Mario Cecchini, qui a été président ici dans l'industrie de la radio de Corus, avant que Cogeco ne devienne acheteur, qui a déjà été pressenti pour devenir président des Alouettes il y a quelques années, ça n'avait pas abouti. Et on parle d'Annie Machocha, qui reviendra dans le décor, mais cette fois dans le rôle de directeur général. Qu'est-ce que tu penses de l'ensemble du portrait des Alouettes?
Ben, prenons d'abord l'annonce des nouveaux propriétaires. C'est une bonne nouvelle. On va laisser la chance à ces deux individus-là, à la famille, si on veut, là, et à Crawford Steele de faire des siennes, d'investir, de donner de la confiance aux amateurs québécois, d'injecter un peu de stabilité, Mario, dans une ligue qui souffre encore et continuellement d'irrégularité dans sa façon de gérer. Tu sais, il n'y a pas personne qui fait quelque chose d'anormal. C'est juste que on n'arrive pas à créer du momentum positif pour aller galvaniser le peuple. Et particulièrement dans ce cas-ci, depuis 12, 13, 14 mois, le dossier de vente des Alouettes qui s'est éternisé, puis qui n'a pas, à notre avis, au Québec, même livré des Québécois investisseurs. Ce que je trouve un peu dommage, un peu triste, mais de nos côtés, je vais donner la chance à ces deux individus-là de faire leur marque.
C'est pas de leur faute à eux autres, mais le commissaire semble avoir choisi ces investisseurs-là au détriment de d'autres groupes d'investisseurs. Qui dit la vérité? En tout cas, Éric Lapointe est venu nous dire à cette antenne-ci, il y a deux soirs, que l'argent était là, qu'ils n'ont jamais su le montant d'un chèque à verser. Ben, je leur ai dit, coudon, est-ce que vous avez essayé d'avoir ça à rabais, de convaincre la Ligue que aidez-nous à éponger et perdre des prochaines années? Puis eux autres, dans le fond, sont partis de leur man cave, puis ont fait un gros chèque, puis bye-bye la visite. C'est nous autres les proprios. Ouais. Mais lui, il m'assure que la Ligue, il n'était pas question qu'il éponge les pertes des groupes québécois et tout ça, mais bref, c'est décevant que, tu sais, l'expression que j'ai utilisée, c'est qu'on est-tu rendu à l'heure d'être maître chez nous en matière de football professionnel? Ça n'a pas l'air, en tout cas pas en matière de propriétaire.
Mario, il y a une équipe non anglophone, là. Ce sont les Alouettes dans la Ligue. Alors, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi les dirigeants de la Ligue n'accordent pas plus d'attention. À part de faire la routine de traduire des communiqués de presse puis d'avoir une espèce de façade francophone, la Ligue est anglophone. Et on a une équipe au Québec et on ne semble pas prioriser l'aspect culturel et linguistique. C'est pas une priorité à tout prix, Mario.
Sauf si on en a besoin dans des rôles clés. Président, DG...
Ouais, ben là, c'est là qu'on va voir maintenant les décisions prochaines. Mais pour conclure sur Stern et Spiegel, moi, je pense qu'il va avoir un vrai test. Parce que ces gars-là, ce sont des amis de Dale Lastman. Puis Lastman, c'est le nouveau gouverneur des gouverneurs de la Ligue canadienne et aussi le gouverneur des Argos de Toronto. Un ami de M. Ambrosi et un ami de M. Stern et Spiegel. C'est pour ça que ça s'est fait très récemment, parce qu'à un moment donné, il voulait voir s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait de l'intérêt pour une franchise de la Ligue canadienne. Fait que ça a évolué très rapidement, Mario. Alors, je veux voir de mes yeux si ces deux individus-là ont la capacité de vouloir apprendre rapidement c'est quoi être un propriétaire d'équipe dans un marché relativement différent pour eux. Donc, les deux postes suivants, DG et président, sont cruciaux à ce niveau-là si on veut rebâtir cette organisation.
Ça semble se diriger vers de bonnes nominations. On verra si ça va prendre, tu l'as dit, entre Kerry Jones et Danny Machocha.
Tu sais, Mario, c'est jamais facile, hein, en passant. C'est pas parce qu'on a des Québécois dans ces deux rôles-là puis des gens qui s'expriment en français. Tu sais, ça prend de l'expérience, ça prend de la pertinence. Puis les deux ont de l'expérience, mais la pertinence proche de la Ligue canadienne actuellement, ça reste à prouver. Parce que ça fait quand même plusieurs années que Danny Machocha n'est pas dans la Ligue canadienne et le réseau s'effrite, puis les connexions, puis la connaissance du personnel des joueurs s'effrite aussi. Alors, les sports avancent rapidement. La technologie te permet de rester tout près de ça, mais tu sais, il y a un moment donné, il y a une passation de pouvoir, puis une nouvelle génération, puis il y a d'autres jeunes qui aspire à ces postes-là. C'est un gros test. Ça va être un gros test pour un gars comme Mario Cecchini aussi, de pouvoir connecter ça dans une business rentable financièrement. Mm-hmm. Parce que Mario, oublie les pertes du passé. S'il y a eu des pertes du passé, c'est parce qu'il y a pas assez d'intérêt puis de business et d'affaires et d'investissement de gens dans le monde corporatif à Montréal. Alors, est-ce que ça change parce qu'on nomme un autre individu? Ça prend du temps, ça aussi.
On va parler maintenant du Canadien de Montréal, Ray. L'image du Canadien en prend pour son rhume et pour cause avec deux fois dans la même saison en un court laps de temps des séquences de 8 défaites. On ne sait pas combien ça va s'arrêter. C'est quoi la goutte qui fait déborder le vase quand tu es dans une organisation qui t'amène à faire soit un coup d'éclat ou des changements? Est-ce que tu penses que le Canadien peut poursuivre encore longtemps sans grand changement, sans nuire à son branding et à ses revenus?
C'est un défi vraiment intéressant là qui guette les Canadiens. Moi, j'ai jamais vu de ma vie, dans les 10 ans que j'étais avec l'équipe, puis depuis ce temps-là, deux séquences de 8 défaites. Honnêtement, là, tu viens de couler ton bateau. Là. C'est fini. Là. Ils participeront pas aux séries. Quoi qu'il arrive, là, il faudra qu'ils jouent à un meilleur niveau que les meilleurs dans la Ligue nationale actuellement pour les 30-quelques derniers matchs. Oublions ça. Bon, il faut que tu compétitionnes. Il faut que tu joues pour gagner. Les joueurs, puis l'engagement de l'équipe, ça doit continuer parce que les gens paient dans les gradins pour assister au hockey de la Ligue nationale, au meilleur niveau possible et à chaque effort de chacun des joueurs sur la glace. Côté business, là, il faut tout de suite penser à l'an prochain. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant qu'on a un nouveau défi devant nous? C'est pas un défi nouveau de ne pas faire les séries. C'est un défi nouveau de perpétuer ça puis là, d'avoir des gens qui perdent espoir. Parce que les équipes sportives, Mario, vivent d'espoir. Les partisans, là, ils croient ton espoir en échange de « donne-nous un peu d'argent, donne-nous un peu de ton temps, nous, on va te donner de l'espoir de rester partisan. » Là, les partisans, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils se posent un paquet de questions.
Oui, parce que l'espoir est affecté, parce que notre plus récent haut choix de repêchage ne joue pas du gros hockey. Ouais. Et donc, c'est difficile de dire hey, « on va-tu être bon dans 4 ans et demi, dans 2 ans? » Tu sais, Suzuki monte des beaux flashs, ouais. Mais c'est là-dessus que ça repose l'espoir. Fait comment tu fais pour l'inventer, l'espoir, s'il vient pas de tes joueurs?
Donc, il faut que tu sois capable de bâtir au niveau de ton organisation de hockey, de la valeur. Il faut que tu sois capable de leur en donner plus aux partisans pour qu'ils s'accrochent à toi. Puis là, je dis pas s'accrocher pendant sur un plan de 5 ans, là. Ce que je veux dire, c'est que il y a des équipes qui ne performent pas, qui sont pleines à craquer, puis il y a un engouement dans le sport. Ça existe. On l'a fait à Montréal en 2001, 2002, 2003, 2004. On n'avait pas des grosses équipes. D'ailleurs, on n'a pas eu de grosses équipes pendant les 10 ans. Mais il y avait un engouement et un buzz autour de ce club-là. Pourquoi? La rareté, la valeur, l'expérience.
Ouais, mais c'est la victoire qui a ramené ça, Ray. L'équipe a manqué série 3 années de suite. Je veux rien enlever à votre travail. Puis sans victoire, c'est difficile de vendre de l'espoir, là.
Absolument, Mario. Mais il y a beaucoup d'équipes. Je vais te nommer les Cubs de Chicago pendant 108 ans, qui ont toujours été relativement pleins au Wrigley Field. Il y avait des équipes compétitives des
Toronto,
fois.
Les Maple Leafs,
ça fait combien? 50 quelques années.
Oh oui, c'est plein.
C'est plein. Ça a toujours été plein. Il y a eu très peu de pertes d'intérêt. Là, nous, on est plus passionnés, plus émotifs au Québec. Le sang un peu plus
ça
chaud.
Ça n'a pas hué à la fin du match.
Ça vide plus rapidement.
Oui.
Tu sais, puis là, les gens se découragent plus vite. Puis à cause des multiplateformes, les gens en parlent plus souvent. Ce qui nourrit un peu le problème. Alors, les gens partout se plaignent. Et ça, il faut contrebalancer ça avec une expérience. Mais je ne parle que de l'expérience, mais le sport, pour que tu me déplaces dans un centre, t'es allé au match récemment, dans une loge avec ta famille, Mario, c'est parce que tu trouves que l'expérience doit en valoir la peine. Si tu vas emmener tes enfants, puis ta famille, puis ta conjointe, puis tout le monde, c'est que tu crois que l'investissement en temps, puis en argent, puis en énergie, en vaut la peine. T'es pas allé là pour gagner la game.
Non.
T'es allé là pour passer une belle soirée.
Ben oui, on aime le hockey.
Alors, s'il y a des belles soirées, et si c'est bien garni.
J'étais allé aux Alouettes cet été. Je pensais pas qu'elle allait faire des séries. J'ai vu la remontée contre les Blue Bombers. Tu sais jamais à quoi tu vas avoir droit.
Absolument. Tu peux avoir une bonne game, dans une mauvaise saison.
Oui.
Et te garni.
Les gens qui étaient là l'an passé pour le match simulé contre les Leafs de Toronto où Poehling a marqué 3,5 buts.
Dernier match à saison. Il y en a eu plein.
Jeff Monson donnait des high-fives à tout le monde.
Tout à fait. Mais c'est vrai que ça commence avec des victoires puis des joueurs vedettes. Mario, t'as raison. Mais pas loin derrière. Là,
le reste, c'est du cosmétique, là,
oui,
en attendant.
Mais ça compte pour beaucoup aujourd'hui parce que sinon, tu resteras à la maison.
Non, je suis d'accord. Je ne dis pas de ne pas faire le cosmétique, mais je retourne à l'os, là, à l'ossature, à la colonne vertébrale. qu'est-ce que tu as côtoyé de près pendant plusieurs années, président d'entreprise et un propriétaire en George Gillette? Je veux dire, à quel moment le président, tu sais, ce qui est en place puis ce qui semble soutenir, là, à qui pose la question, coudon, là, il est tout le temps que je change de piste, moi, où je suis encore sur la bonne piste, il parle à qui?
Bon, alors, premièrement, il y a une ligne centrale entre le propriétaire, président, directeur, gérant et coach. OK, ça, c'est les intervenants qui sont les plus près. Le coach
c'est pas eux qui parlent pour savoir s'ils vont les
remercier. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le coach est très influent auprès des joueurs, mais le propriétaire, lui, c'est quand même sa vision, sa culture d'entreprise. À qui il parle? Il parle à ses investisseurs. Parce que Dieu sait qu'il y en a des investisseurs autour
c'est
des Canadiens.
C'est VP. Maintenant, toi, t'as été VP. Est-ce qu'il va consulter ses VP?
Oui, bien sûr. Puis ils vont faire des meetings exécutifs, puis ils vont parler de des solutions possibles. Mais à la fin, lorsqu'il y a peut-être un changement majeur qui pourrait s'effectuer, il faut qu'il parle à ses investisseurs. Il faut qu'il parle aux gens à qui il a confiance. Les gens qui autour de lui étaient là au début, qui sont encore avec lui aujourd'hui. Mais c'est difficile de cumuler le rôle de propriétaire puis président. Parce que c'est deux jobs complètement différents, Mario. Un est propriétaire de l'équipe. L'autre doit opérer l'équipe. Tu peux jamais faire les deux correctement. Je te le dis, là.
Penses-tu qu'ils trouvent ça difficile en ce moment? Ben,
moi, je trouve que quand le Canadien parle de comment qu'on améliore, c'est quoi les solutions possibles, c'est difficile quand t'as un gars qui fait deux jobs. Jeff Molson, propriétaire, Jeff Molson, président, Jeff Molson dans Evenco, Jeff Molson partout. À un moment donné, le même gars peut pas être aussi bon dans tous ces rôles-là. Chacun doit rester dans sa ligne de tir. Chacun doit rester dans sa phase d'autoroute, là, où tu restes à droite ou restes à gauche et fais bien ton travail et délègue et exige que les autres le fassent tout aussi bien.
Et ça doit être difficile d'avoir du recul parce que comme président, t'es au quotidien avec ton DG avec qui tu développes une complicité, mais comme propriétaire, là, tu parles avec tes co-actionnaires qui regardent voilà. Peut-être le DG puis son travail d'un angle différent.
Oui, puis tu as des comptes à rendre financièrement. Dieu sait que de ce côté-là, les Canadiens vont bien financièrement.
Oui, oui.
Mais à la fin, il faut que tu te reposes ces questions-là quand tu essaies de remettre une équipe sur la bonne voie.
On va parler d'autres choses maintenant. Le tennis, ça commence sur les chapeaux de roue cette année avec, avant les internationaux d'Australie, une compétition par équipe qu'on a baptisée la Coupe ATP, calibre de jeu très relevé. Ray, est-ce que cependant, à la fin de l'année, on va avoir encore plus de joueurs blessés parce qu'on a une compétition supplémentaire?
Ben écoute, moi, mon point de vue là-dessus, c'est que c'est les événements de tennis d'équipe sont populaires pour les joueurs. Les joueurs aiment jouer pour leur pays. Bon, ça, c'est une chose. Mais là, la ATP est venue se mettre les pattes dans ce qui était un événement de la Fédération internationale de tennis, Mario, c'est-à-dire la Coupe Davis. Puis la Coupe Davis, dans un nouveau format, vient d'avoir lieu en novembre à Madrid. Puis là, c'était bon. Puis d'ailleurs, le Canada est en finale. Sauf que c'est le dernier grand tournoi qui a eu lieu. Puis on recommence l'année, 5-6 semaines plus tard, avec un autre tournoi d'équipe. Fait qu'en termes de temps là puis de ponctualité, peut-être pas le meilleur moment. Mais je comprends pourquoi. Parce qu'on est à veille d'arriver aux internationaux d'Australie, qui commencent littéralement avec les qualifs ce week-end. Fait que c'est normal que les joueurs soient en Australie pour se préparer. Donc, là-dessus, ils ont réussi. Et tu vois l'intensité du jeu,
façon
dont les bourses sont redistribuées.
Avec et l'ambiance.
Trois villes en Australie. Tu sais, avec là un demi-finale extraordinaire. L'Australie, pays haut contre l'Espagne. Puis la Serbie avec Djokovic contre la Russie avec Medvedev. Honnêtement, tu peux pas avoir une affiche à quatre là, meilleure que celle-là.
Non, vraiment, c'est emballant. Et on a vu Shapovalov, notamment, contre Djokovic, pas plus tard qu'hier.
Hein? Il y avait la chance de l'avoir, c'était vraiment pas lui, là, mais l'expérience de Djokovic a fait la différence.
Autre sujet, Nike et le Paris Saint-Germain, quel est le lien? J'ai une petite idée, mais développe, mon cher.
Ben, la raison pourquoi je veux parler de ça, c'est que Nike, une des grandes sous-divisions, sous-marques de Nike, c'est The Jordan Brand. Ça avait été créé avec Air Jordan. Ça a approximativement 4 milliards de dollars de ventes annuellement. Sous l'empire et le régime de Nike. Et The Jordan Brand, maintenant, commandite ses propres équipes sportives. Donc, on n'a pas toujours le logo, le swoosh de Nike. On a le logo de Michael Jordan.
Faut être fort.
Et ils ont commandité sur les maillots du PSG, une des équipes les plus célèbres au monde dans la Ligue 1 en France. Mais là, ils font une relance le 24 janvier. Puis qu'est-ce qu'ils font à Paris pour la PSG et Nike et The Jordan Brand? Ils invitent deux équipes de l'NBA à aller jouer un match. En pleine saison. Les Hornets, ironiquement, la propriété de Michael Jordan, contre les Bucks de Milwaukee, la meilleure équipe de l'NBA cette année. Alors, pour te dire encore une fois comment on réussit à croiser les intérêts de tous, on rentre du soccer puis du basketball dans le même langage, dans la même phrase, dans le même événement, et on connecte tout ça avec The Jordan Brand puis Nike. Fabuleux, on va en voir de plus en plus des occasions comme ça dans le sport où on réussit à rassembler 3-4 marques ensemble.
congédiement et embauche d'entraîneur dans la NFL à la veille d'un autre gros week-end de séries éliminatoires. Et c'est un dossier qui revient régulièrement dans les sujets d'actualité par rapport à la NFL. Le peu d'entraîneurs représentant les minorités qui ont des jobs d'entraîneur-chef.
Il y en a 4 sur 32 qui sont minorités noires ou hispano-noires, c'est-à-dire Ron Rivera avec les Redskins. Mario, c'est inacceptable dans une ligue qui est composée de 70 % de joueurs noirs africains et américains. Alors, il y a un problème. Beaucoup de coordonnateurs offensifs ou défensifs, seulement 4 élus comme entraîneurs-chefs. Il y a plusieurs années, on a lancé un règlement qui s'appelle « The Rooney Rule » grâce à Dan Rooney, propriétaire des Steelers. Et c'était pour forcer les équipes obligatoirement à interviewer pour des entretiens sérieux des candidats de minorité pour éventuellement augmenter le profil. Sauf que ça les force pas à les embaucher. Et là, on vient d'avoir 2 embauches cette semaine. Joe Judge, là, avec les Giants de New York, qui est un coordonnateur des unités spéciales. J'enlève rien au gars, là, je le connais pas personnellement.
C'est juste parce
sûr.
Qu'il travaille pour les Patriots, j'imagine.
Ben oui, puis là, il est rendu avec les Giants de New York comme entraîneur-chef. On n'a même pas considéré d'autres candidats, à part d'en avoir fait en entrevue obligatoirement. Mais le pire, c'est Matt Rhule. Matt Rhule, là, c'était l'entraîneur-chef avec Baylor dans la NCAA au Texas, Baylor University. Il a jamais rien gagné, là. Il a été compétitif.
En tout cas, là, il vient de gagner le jackpot.
Il vient de se faire signer un contrat, Mario, de 60 millions pour 7 ans. Aucune preuve dans la NFL. Je dis pas qu'il faut payer tous les entraîneurs de la même façon, mais là, c'est une moyenne d'à peu près 8,6 millions de dollars par année pour un contrat de 7 ans pour un gars qui a même pas gagné dans le football universitaire. Encore une fois...
Il doit avoir été bon en entrevue, hein?
Il doit avoir fait toute une impression pour David Tepper, le propriétaire des Panthers de la Caroline. Mon point là-dedans, c'est que je trouve que la NFL, qui devrait être une ligue leader à ce niveau-là, manque de réussite et n'obtient pas plus qu'un C ou un D comme bulletin de classe pour ces embauches d'entraîneurs qui ont besoin d'opportunités et qui aident le football à se perpétuer aux États-Unis.
Et un mot en terminant pour parler des athlètes qui s'unissent pour l'Australie.
Ben écoute, Mario, moi, j'ai pas le choix que de revenir sur ça parce que je suis atterré, je suis terrassé de voir que l'Australie brûle, puis le monde entier n'en parle que pendant une nouvelle. Je suis d'accord qu'on peut pas tout prendre de l'avion pour aller éteindre des feux, Mario. Mais là, ce qui est bon, c'est que les athlètes commencent à s'impliquer. Puis la raison pour que je le souligne, c'est parce que les athlètes ont un suivi puis une influence sur les médias sociaux et sur les plateformes. Donc, ils ont un rôle à jouer. Comme les célébrités.
Ils ramènent le sujet à l'avant-scène.
Ben oui, et ils forcent les gens à s'impliquer émotivement, à s'engager. Oui, oui. Il y a un événement de tennis le 15 janvier prochain avec Nadal, Federer, Serena Williams, en Australie même. Tous les fonds vont être recueillis pour envoyer là. Il y a les joueurs de la NBA qui proviennent d'Australie. Il y en a 7 ou 9 qui ont remis 750 000 $. T'as plein de gens qui... Lewis Hamilton a signé un chèque de 500 000 dans les derniers jours pour la cause. Il faut qu'on contribue. Mais il faut demander aux athlètes dans le monde entier d'en faire davantage pour ces causes-là parce que c'est inacceptable. À la veille des internationaux d'Australie, Mario, où on va remettre des chèques de 4 millions à l'homme ou à la femme, aux deux, qui vont remporter le titre pendant que le pays brûle. J'ai de la difficulté avec cette
malaise.
Image-là. Ben oui, ben oui. Non, alors, je viens en appel dans notre petite région ici aux gens de faire des contributions à la Croix-Rouge en Australie, la SPCA Royale d'Australie pour les animaux qui ont besoin d'être sauvés. Il y a toutes sortes de raisons de le faire. Il faut le faire maintenant.
Si vous en voulez plus de Ray Lalonde, en attendant notre prochaine chronique Sport Business, eh bien, vous pouvez l'écouter avec la relance de ses podcasts Focus sur iTunes, YouTube, SoundCloud et on te suit sur Twitter également à @Ray. Ray Lalonde, mon cher Ray, merci beaucoup.
Merci Mario, bonne soirée.
Bonne soirée et à bientôt. Dans quelques instants, nous enchaînons avec quelques nouvelles en compagnie de Guy Simard. Gros week-end de football encore une fois, football éliminatoire avec Bruno Eppel et Mathieu Roy nous en apprend davantage sur les derniers gadgets dans le monde des jeux vidéo. À tout de suite.